Il y a des familles qui n'ont pas le moindre besoin de recourir au service d'un expert pour connaître la vie de leurs ascendants. Elles possèdent de tout temps leurs chartriers, leurs armoiries et leur généalogie complète remontant jusqu'aux croisades ou même aux premiers capétiens. Les familles aristocratiques connaissent ainsi dans le détail la chanson de gestes de chacun de leurs ancêtres, dont souvent même le portrait en majesté figure encore au mur des demeures ancestrales. Mais justement, la difficulté dans ce cas est bien la gestion de l'abondance d'informations. Il y a tellement de fruits sur toutes les branches de l'arbre qu'il devient presque impossible de s'y retrouver. Le besoin qui peut ainsi s'exprimer est alors celui de simplifier, de hiérarchiser et de mettre en exergue les faits saillants de l'histoire d'une lignée pour pouvoir la transmettre aux jeunes générations. Tel est le cas des Terves, une ancienne famille féodale connue depuis Gauthier de Terves en 1135 et qui, au fil de l'histoire, a possédé de nombreuses terres en Poitou et en Anjou. Petit seigneur et écuyer de père en fils, au XIVe, XVe et XVIe siècle, les voilà chevaliers au XVIIe avec François de Terves, qui prend les armes pour la défense des côtes du Poitou. René, son fils, se bat contre les impériaux en Alsace en 1674. Il est fait prisonnier et retenu en otage à Strasbourg. Franchissons allégrément trois générations et Pierre-Charles de Terves devient marquis. Il avait été l'un des pages du roi Louis XV, puis cadet au régiment Royal Artillerie. Après une longue carrière militaire terminée en 1777, il émigre en 1791 et devient commandant en second d'une compagnie de gentilshommes de l'Anjou à l'armée des princes. Il avait emmené avec lui ses deux fils aînés. L'un sera tué en 1794 à l'armée de Condé. Le cadet Armand, trop jeune pour émigrer, s'est engagé lui dans les rangs des insurgés vendéens. Il y trouvera aussi la mort la même année, en 1794. Pierre-Charles de Terves avait laissé derrière lui sa femme Eulalie et leurs cinq filles, qui vont également connaître un sort cruel. Arrêtée à Angers en novembre 1793 comme suspecte, elles sont détenues à la prison des Cordeliers. Face à l'avancée des troupes vendéennes, les républicains transfèrent en masse les détenus. Eulalie et ses filles font ainsi partie des 800 femmes attachées deux par deux à être escortées par les gardes nationaux jusqu'au lointain château de Montreuil-Bellay. On les y entasse dans des conditions de détention épouvantables. Elles ne recevaient qu'un morceau de pain noir et 2 litres d'eau par jour. Et lorsque le typhus s'installe, plus personne ne veut entrer dans la prison. Le pain et l'eau se distribuent à la porte. Un seul homme osait pénétrer dans les chambres. C'était le fossoyeur. Chaque matin, il prenait les mortes de la nuit sur la paille et il chargeait leur cadavre sur ses épaules pour le porter vers la fosse commune. Louise de Terves, qui avait 27 ans, mourut une des premières le 19 décembre. Entre le 25 décembre 1793 et la fin du mois de février suivant, plus de 130 prisonnières décèdent. Le 10 février, 30 périrent, parmi lesquelles Céleste de Terves, qui avait 25 ans. Le 23 février, Eulalie, 21 ans, disparaissait à son tour. Leur mère n'avait plus auprès d'elle que 2 de ses 5 filles, Caroline et Anne. Leur captivité ne prit fin qu'en octobre 1794. Lorsque Pierre-Charles de Terves revint de l'émigration en 1800, après une absence de près de 10 années, il avait perdu 5 de ses 10 enfants dans la tourmente. Avec lui revenait son fils Pierre-Joseph, qui s'était vaillamment battu à l'armée du prince de Condé, où il avait été grièvement blessé. En 1803, il épousa à Chaudron-en-Mauges Céleste de Villoutrès de Brignac, dont le père avait été page de la petite écurie du roi et écuyer d'une des filles de Louis XV. Nous allons maintenant nous intéresser à leur fils, Victor de Terves, né à Angers en 1806. Fidèle à la tradition familiale, Victor embrasse la carrière des armes. À 18 ans, il est reçu à l'école militaire. Et 2 ans plus tard, en 1826, le voilà sous-lieutenant au 62e de ligne. Mais la famille est fermement légitimiste. Et lorsque Louis-Philippe remplace Charles X en 1830, Victor et son frère Joseph brisent leur épée et quittent l'armée. 5 ans plus tard, Victor épouse Gabriel Charbonnier de la Guennerie, qui a 10 ans de moins que lui. Son beau-père, Charles, Charbonnier de la Guennerie, était devenu le garde du corps de Louis XVIII lors de la première Restauration, et il l'avait ensuite accompagné à Gand pendant les 100 jours. Légitimiste convaincu, il démissionna après la Révolution de Juillet. Le beau-père et le gendre avaient bien ainsi les mêmes convictions. Mais Charles était allé très loin dans l'opposition et il participa à plusieurs complots contre Louis-Philippe. En 1832, il était condamné à 2 ans de prison. À nouveau incarcéré en 1844, suite à une nouvelle action subversive, il passe plusieurs mois en détention, mais sera acquitté après une magnifique plaidoirie du célèbre avocat Berryer, défenseur acharné de la branche aînée des Bourbons et qui finira membre de l'Académie française. En 1858, Victor et sa femme Céleste achètent le vieux château du Breil à la Salle de Villiers, dans le sud du Maine-et-Loire. L'avènement du Second Empire avait ainsi contraint toutes les familles légitimistes à se mettre à l'écart de la vie du pays et à se replier sur une existence que les Anglais qualifient de « gentleman farmer ». Mais l'impétuosité du sang bleu continuait de couler dans les veines des nouvelles générations. En 1860, la jeunesse catholique et royaliste dans tout le pays, mais encore plus dans cet ouest si proche de la Vendée, trouve une cause à sa mesure. Privés d'emploi du fait du Second Empire, de jeunes aristocrates se révoltent contre les dangers courus par le pape Pie IX, agressé par les menées de Garibaldi d'une part, et la démarche de la famille de Savoie d'autre part, pour conquérir l'hégémonie italienne et menaçant ainsi les États du Vatican. Pie IX avait offert le commandement en chef de ses armées au général de la Mauricière, le vainqueur d'Abdelkader, en délicatesse avec Napoléon III. D'Europe entière et même du Canada ou du Pérou, des milliers de volontaires vinrent le rejoindre et pour certains d'entre eux menèrent de 1860 à 1870 des combats multiples et sanglants dans lesquels un grand nombre trouvèrent la mort. La Mauricière parvint à rassembler une armée de 16 000 hommes constituée en majorité de volontaires français et belges qui servirent dans les zouaves pontificaux. Roger de Terve, le fils de Victor et de Céleste, alors âgé de 22 ans, fut l'un des premiers à répondre à l'appel. Un grand nombre de jeunes aristocrates d'Anjou embarquèrent avec lui à Marseille en juillet 1860. Quelques jours plus tard, ils recevaient au Vatican la bénédiction du pape. Ils allaient former un corps d'élite de la cavalerie pontificale, les guides de la Mauricière, réservés aux missions qui exigent un dévouement absolu. Roger faisait ainsi le même choix que son père, parti à 21 ans rejoindre l'armée des princes pour combattre la Révolution. Pendant 6 mois avec ses camarades, il parcourt sans relâche les montagnes de l'Apennin, tantôt en colonne, tantôt à la suite de la Mauricière. Leur uniforme ressemblait à celui des chasseurs à pied, une tunique courte, un pantalon large, des épaulettes de laine verte, des guêtres blanches, un shako à plumet retombant, avec une carabine minée. Roger va ainsi passer 8 années dans la cavalerie de l'armée pontificale, attaché à l'état-major du général de la Mauricière comme officier d'ordonnance. Il se distingue particulièrement dans les combats de Castelfidardo, d'Ancône et de Mentana. Le pape le récompense en en faisant un chevalier de l'ordre de Pie IX, un chevalier de Saint-Grégoire le Grand et un comte du Saint-Empire. Pendant que Roger est en Italie, Victor et Gabriel décide de transformer complètement le château du Breil. Celui-ci y gagna un portique antiquisant à l'italienne avec ses colonnes et piliers au chapiteau dorique. Une manière pour les propriétaires d'honorer les combats dans lesquels leur fils s'était engagé et dont ils étaient fiers. Revenu aux côtés de ses parents en 1868, Roger reprendra du service pendant la guerre de 1870 comme commandant d'un bataillon de mobiles du Maine-et-Loire. Il fait ainsi la campagne de la Loire et celle de l'Est et reçoit la Légion d'honneur. Roger avait un frère, Joseph, qui eut le malheur de perdre ses 3 fils dans leur pleine jeunesse et dans des circonstances tragiques. L'aîné fut tué pendant la guerre de 1870, le second se noya dans les temps du château familial et le troisième succomba à une chute de cheval. Après la mort de ses parents, décédés en 1879 et 1880, Roger s'installe au château du Breil avec sa femme Pauline et ses enfants. Pauline était aussi la fille d'un ardent légitimiste. maire d'une petite commune du Maine-et-Loire, il avait démissionné de son poste à l'avènement de Louis-Philippe. En 1881, Roger de Terve accepte par devoir de prendre la succession de son père à la mairie de la Salle-de-Vier. Mais avec l'âge, il va résider de plus en plus souvent à Angers. Et en 1888, il vend sa propriété au comte de Maillé de la Tourlandry qui lui succédera à la mairie. Pierre, unique fils de Roger et de sa femme, marche sur les traces de son père. À 22 ans, il sort de Saint-Cyr dans la cavalerie. En 1908, lors des événements qui amenèrent l'intervention de l'armée française au Maroc, il demande à faire partie des opérations. La vie routinière d'une garnison en France n'était pas de son fait. Il avait vocation à être un officier d'Afrique. Mais les officiers doivent faire au préalable un stage dans un corps d'Algérie. Le lieutenant Pierre de Terve allait y faire le dur apprentissage du Sahara. Au bout d'un an, il est enfin envoyé dans le Maroc oriental, où il fallait faire face à une véritable guérilla. L'ennemi abandonnait la position à l'approche des colonnes, puis revenait harceler les troupes. Cette fois, Pierre est devenu un vrai officier d'Afrique. La cuirasse et le casque ont été remplacés par le burnous et la chéchia. Il parle l'arabe et se pénètre de la mentalité indigène. Il sait tout à la fois se faire obéir et aimer de ses cavaliers. En mars 1912, la France obtient le protectorat du Maroc. Il fallait des cadres pour l'armée chérifienne. Le capitaine de Terve fut désigné pour prendre le commandement d'un tabor. Il quitte le Maroc oriental à destination de Fès. Il écrit à son père « Mes deux revolvers sont chargés. J'ai confiance en mon étoile et vos prières. » Il s'embarque à Oran et débarque à Tanger. Mais entre-temps, de graves événements s'étaient produits. Le 17 avril, les tabors chérifiens s'étaient mutinés, provoquant une émeute sanglante à Fès et massacrant leurs officiers. Pierre prend la tête du premier escadron marocain, formé avec les quelques éléments des tabors de cavalerie restés fidèles. Il est constamment au feu, en première ligne. Les combats sont permanents et les pertes lourdes face aux dissidents. En mai 1914, il est engagé dans une lutte sans merci pour réduire les positions de la tribu des Tsouls, qui occupe les hauteurs de Tefaza. Il s'y couvre de gloire, les Tsouls perdent du terrain. Mais à cette heure, au moment où le combat cessait, tous les objectifs ayant été atteints avec un élan superbe, Pierre est tué roide d'une balle dans la tête. Le colonel de Castres, son chef, lui rend hommage. « Mort instantanée, mort en pleine victoire, fin glorieuse d'un brave !» Au combat de la montagne des Tsouls, le capitaine de Terve a montré une fois de plus ce que peuvent obtenir l'énergie et la décision d'un chef de cavalerie qui a en même temps la maîtrise de ses hommes. En le voyant chanceler et tomber, ces sauvages se précipitèrent et ce fut un effarement, puis un sombre deuil. Le soir, dans les longues conversations du bivouac, chacun rappelait les hauts faits de l'escadron et les dangers partagés avec ce chef qui voulait toujours en prendre la plus grande part. Le corps de Pierre de Terve sera ramené à Angers le 4 juillet. Il y reçut les honneurs d'une foule immense, gare et cathédrale tendue de noir. L'évêque d'Angers donne en l'absoute. Roger survécut peu à son fils. Il meurt le 2 juin 1916 dans son château de Saint-Jean-des-Mauvrais, dans le Maine-et-Loire. Il avait 78 ans.